Dieu est bon tout le temps. Alors, il est 20h30 et puis il y a un homme qui cherche à se garer devant un restaurant où il a rendez-vous avec des amis. Et il tourne et il tourne, il fait un tour de pâté de maison, deux tours de pâté de maison, trois tours de pâté de maison. Il dit, j'en peux plus. Il voit le temps qui passe, il va rejoindre des amis et il risque d'être sérieusement en retard si ça continue. Donc, il finit par crier à Dieu et dire, OK Seigneur, si tu me trouves une place de parking, je prie tous les jours. Ok, et il tourne et tourne et tourne, il n'y a rien. Il dit, ok, d'accord, Seigneur, pour être plus précis, si jamais tu me trouves une place, eh bien, je m'assiérai sur ma siège de prière et tous les jours, je règnerai en Christ. Tous les jours, je te promets, je le ferai. Et puis tout d'un coup, il y a un véhicule qui se déplace, qui libère une place juste devant l'entrée du restaurant. Et l'autre, dans sa voiture, il dit, « Ok, Seigneur, laisse tomber, j'ai trouvé une place. » Oh ben, où ? Ah, il y a combien qui l'ont fait, là ? Allez. Ok. À partir de la semaine prochaine, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de célébrations qui vont être faites pour les 70 ans, pour fêter les 70 ans de l'État d'Israël. Et il y en a à Nice, d'ailleurs, je vous invite, hein, le dimanche 22 à l'Acropolis, vous pouvez y assister si vous achetez un billet de 20 euros, 70 pour dans le carré VIP, et oui, je fais de la pub, on ne m'a pas demandé, mais je le fais volontiers. À l'Acropolis dimanche. Donc voilà, il y a 10... Pardon ? Tout le monde va recevoir un mail, c'est extraordinaire. Ok, encore mieux alors. Et de partout, on entend parler des 70 ans. Alors, à vrai dire, l'État d'Israël a été proclamé en tant que tel, c'est-à-dire en tant que foyer national juif, le 14 mai. Donc, la communauté juive a pris un petit peu d'avance parce que, grosso modo, ils veulent se donner un mois pour fêter cet anniversaire. Et 70 ans, ça, c'est un chiffre qui est important parce que ça permet de mesurer ce qui s'est fait en 70 ans et sur le territoire qui a été reconnu, pas simplement donné, reconnu comme appartenant aux Juifs et puis par rapport à l'ensemble des pays de la région, même par rapport aux nations du monde en général. Alors, je me suis dit que, plutôt que d'attendre le dimanche qui s'approche du 14 mai, et je ne me rappelle plus à quelle date ça tomberait, mais peu importe, eh bien, j'allais commencer maintenant, puisque les festivités commencent maintenant, et je me dis que peut-être certains doivent se poser des questions en disant, bon, Israël, parce qu'il faut se rendre compte que, autant, il y a des gens qui se réjouissent de ce 70e anniversaire, il y en a plein qui maudissent cet anniversaire. Et d'ailleurs, le 15 mai, les voisins d'Israël font le deuil avec beaucoup de réjouissance aussi, il faut le dire, parce que c'est un jour qu'ils appellent le jour de la Nakba, c'est le jour de la catastrophe, parce qu'eux n'ont pas eu ce territoire-là. Donc, je vais en parler un petit peu, mais pour nous chrétiens, la Bible dit que nous devrions nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent, et en ce qui concerne Israël, se réjouir avec Israël. Et puis, je vais vous donner des raisons. Peut-être aussi parce que quand vous vous rendez au travail, il y a des collègues qui font des réflexions. Et moi, je suis parfois étonnée d'entendre ce que certains croient concernant Israël, que ce soit au sujet de la théologie du remplacement ou de la substitution, ou concernant le regard que l'on doit avoir sur des réfugiés dans des camps palestiniens, c'est-à-dire des malheureux qui sont maintenus dans cet état intentionnellement afin d'attirer la pitié de la communauté internationale. Et puis également afin de soutirer des soutiens qui vont servir à construire des tunnels pour attaquer leurs voisins. Mais bon, alors parlons un petit peu de la raison de ces 70 ans-là. La superficie d'Israël, et vous avez reçu les images, hein. Image numéro 1, la superficie du territoire d'Israël, 22 000 mètres carrés. Vous le voyez là ? C'est-à-dire 28 fois plus petit que celle de la France. Exactement la moitié de la région Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes dans laquelle nous nous trouvons fait 44 000. De 13 fois moins, 13 fois plus petit que l'Italie. Image numéro 3, 74 fois moins plus petit que l'Iran. Quatre. Vous les voyez ou pas? Parce que quand on va voir, vous ne les voyez pas. Quand il y a juste le plan, comment ça le plan? Non, là c'est les dernières photos là, qui sont arrivées. Ben, s'il y avait un email précédent avec toutes les... alors bon, ben, vous les verrez. Mais en tout cas, Israël, donc oubliez ces photos-là qui ne sont pas pour maintenant. Et... Il y a une image que vous verrez qui montre que le territoire d'Israël est 500 fois plus petit que celui des États-Unis. Déjà, vous voyez, c'est-à-dire que, est-ce que vous voyez où se situe la région de la Lorraine ? Eh bien, Israël fait la taille de la Lorraine. Voilà. Donc, alors, Zacharie chapitre 2, on verra les images après. Zacharie chapitre 2, vous avez tous les versets. J'entends pas la réponse. Oui, mais je vois pas, donc... Zacharie, chapitre 2, versets 8 à 10. Parce qu'il faut quand même se poser des questions. Quand on voit un État qui est si petit que cela, et puis quand on entend toutes les rumeurs, toutes les fake news... Tous les acharnements même qu'il y a contre un pays qui est si petit que cela, on dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils lui en veulent ? Qu'est-ce qu'ils lui en veulent ? Pourquoi ce pays ? Est-ce que ce pays est important ? Quelle doit être l'attitude des chrétiens vis-à-vis de ce pays ? Alors vous êtes dans une église où vous avez quand même, j'espère, une bonne idée de ce que dit la parole de Dieu, mais en ces circonstances, eh bien, c'est juste bien de rappeler ce que dit la parole de Dieu. Zacharie, chapitre 2, versets 8 à 10, il dit « Cours, parle à ce jeune homme là-bas et dis-lui, Jérusalem doit rester ville ouverte à cause de la foule des gens et des bêtes qui s'y trouveront. Moi, je serai là. » Bon, c'est pas, et simplement écoutez, et si vous avez votre Bible avec vous, ce que vous devriez avoir d'ailleurs, vous pouvez la lire. Vous entendez, le Seigneur dit, Jérusalem doit rester ville ouverte à cause de la foule des gens et des bêtes qui s'y trouveront, et le Seigneur dit, moi je serai là, je serai pour elle un rempart de feu, et au milieu d'elle je serai sa gloire. Qu'est-ce que le Seigneur dit ? Moi je serai là. Zacharie chapitre 1, versets 16 à 17. C'est pourquoi je le déclare, moi le Seigneur de l'univers, je vais revenir à Jérusalem pour y manifester ma bonté. Mon temple y sera bâti et l'on reconstruira la ville. Puis l'ange me demanda de proclamer cet autre message. Mes villes vont retrouver leur bien-être. Donc apparemment, il n'y a pas que la ville de Jérusalem, mais la prospérité va revenir dans les villes d'Israël. Et la Bible dit que dès que la ville sera reconstruite, la présence de Dieu y sera. Si vous avez été à Jérusalem, il est indéniable que la présence de Dieu y est manifestée. Il y a une sérénité, une paix qui est anormale. Surtout si vous allez dans la vieille ville et que plus vous vous approchez du cotel, c'est-à-dire de ce qu'il reste du mur, du temple, les juifs se rapprochent le plus près possible de l'endroit où était le lieu saint, et plus on approche, plus la ville, on ressent cette paix là, à tel point que n'y a pas besoin d'être un chrétien né de nouveau pour savoir qu'il s'agit de la paix de Dieu. Dieu a dit qu'il serait là. Et il est dit également, donc mes villes vont retrouver leur bien-être, je choisirai de nouveau Jérusalem. Donc, est-ce que vous croyez que Dieu est quelqu'un qui n'est pas hasardeux dans ses choix? C'est-à-dire, il n'est pas là en train de regarder la planète Terre, et puis il fait ça. Ok, d'accord, Trooping Nidouina, Riyad, Ouagadougou, Cape Town, Paris, hop là, Jérusalem. Vous croyez que c'est comme ça qu'il a choisi? Donc, quand Dieu dit « je choisis Jérusalem », Dieu a une intention particulière, c'est un choix qui est très précis, et c'est à nous de découvrir pourquoi il insiste sur Jérusalem, qui se trouve en Israël. Parfois, vous allez dans certains avions, et sur la ville, et les cartes, vous savez, ils montrent des cartes, et une compagnie française s'est fait remonter les bretelles pour avoir hésité sur le pays auquel appartenait Jérusalem. Jérusalem a toujours appartenu, c'est le roi David, hein, qui était un juif, qui a bâti cette ville-là. Et remarquez que la ville de Paris n'y est pas dans la Bible. Bon, cocorico, nous sommes fiers d'être français, en tout cas j'espère que vous êtes. Vous êtes fiers de français, d'être français ou fiers d'habiter en France, hein. Mais en tout cas, nous devons faire preuve d'un petit peu d'humilité et nous demander pourquoi Dieu n'a pas, ça n'est pas pourquoi il n'a pas choisi Paris, mais pourquoi a-t-il choisi Jérusalem? Et puisqu'il a choisi Jérusalem, que veut-il pour Jérusalem? Ce qu'il veut dire, que ce qu'il veut pour Jérusalem, eh bien, n'aura pas la même profondeur que ce qu'il veut pour Paris. Paris n'a pas sur cette planète Terre l'emplacement n'a pas la destinée que Jérusalem a. Et puis, qui sommes-nous pour argumenter le choix du Dieu de l'univers? Parce que le choix est fait. Personne n'a à convaincre Dieu de choisir Jérusalem. Personne n'a besoin de le persuader ou d'essayer de négocier de choisir Amsterdam. Son choix est écrit depuis des milliers d'années. Et il serait intelligent que nous, chrétiens nés de nouveau, eh bien, nous acceptions le choix de l'Éternel. Parce que tout ce que fait l'Éternel est bon pour l'être humain. Ce qui veut dire que quand quelqu'un s'oppose au choix de l'Éternel, ça n'est pas bon pour celui qui s'oppose au choix de l'Éternel parce qu'il s'oppose à Dieu. Deutéronome chapitre 32. Versets 7 à 10, vous avez les versets là, oui. Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération après génération, interroge ton père et il te l'apprendra. Donc apparemment, il doit y avoir une nouvelle qui doit être transmise aux enfants. C'est-à-dire qu'on a trois nourrissons là parmi nous. Eh bien, le rôle des parents, et notamment ici des pères, c'est de leur expliquer le choix de l'Éternel. Des pères, des mamans, ceux qui les entourent, des aînés. Il y a une connaissance qui importe à Dieu. Et il est dit, interroge ton père et il te l'apprendra. Et tes vieillards et ils le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations. Et écoutez bien le verbe qui est utilisé, vous devez l'avoir là. Quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. C'est-à-dire, toutes les limites que les nations ont eues ont été faites, non pas en fonction des décisions de l'Union européenne, mais en fonction de l'élection de Dieu sur un peuple qu'il s'est lui suscité. Dieu n'a pas choisi le peuple d'Israël, il a créé le peuple d'Israël. Parce qu'ils étaient meilleurs? Non, justement. Parce qu'il voulait montrer ce qu'il pouvait faire à travers des gens faibles. Et qu'est-ce qu'il peut faire à travers des gens faibles qui le laissent faire? ben, il les rend forts. Et la Bible nous dit que tout ce qui a été écrit au sujet d'Israël a été pour notre exemple. Donc nous, chrétiens, quand nous nous tournons vers ce que Dieu le fait à travers le peuple juif, ou dans le territoire qu'il a donné, ou pour le territoire qu'il a donné à ce peuple, eh bien, nous pouvons être inspirés pour notre propre marche avec le Seigneur. Il est dit, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Ce peuple n'appartient à personne d'autre. C'est-à-dire que j'espère que vous, parents, et en connaissant pratiquement tout le monde ici, je peux dire que je le vois. Mais j'espère que vous, parents, vous vous dites, cet enfant-là, mais je le défends comme ma propre chair. Personne ne lui fera jamais de mal, autant que je puisse m'y interpeller. Personne ne touchera à cet enfant avec de mauvaises intentions. C'est le mien, c'est ma portion, c'est mon héritage, c'est à moi. C'est ça ? Eh bien, c'est ce que le Seigneur pense vis-à-vis de ce peuple-là. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte. Voyez-vous, il n'a pas trouvé le peuple juif dans les universités de Tel Aviv. En revanche, quand il l'a trouvé, voilà maintenant ce qui sort des universités d'Israël. Il dit dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Et la Bible nous dit, image 5, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Il n'a jamais dit que c'était un peuple parfait parce qu'il lui a donné la loi pour lui permettre de communier avec lui à cause de ses imperfections. Mais malgré cela, le Seigneur a dit, je t'aimerai, il a fait une alliance. Et il a dit, je garde ce peuple-là comme la prunelle de mon œil. Vous l'avez ou pas, là ? Non. Pensons à la prunelle de nos yeux, que se passe-t-il ? Est-ce que vous prenez soin de vos yeux ? Hein ? Alors, certains disent oui, d'autres disent non, d'autres, ils les cherchent peut-être, j'en sais rien, moi. Il se réveille. Vous savez, je ne connais pas une personne qui n'en prenne pas soin. Certains, c'est peut-être une nécessité, hein, de le faire intentionnellement, s'il y a un problème ou quoi. Mais tous, nous faisons attention à nos yeux. Une petite poussière, une toute petite poussière, et immédiatement... Si par exemple une vitre éclate à côté de nous, le premier réflexe n'est pas de se protéger le pied. Hein? Même s'il y a un pot de fleurs qui nous tombe sur la tête, on ne protège pas les pieds. Quoi que ce soit qui nous arrive, le premier réflexe est de nous protéger le visage. Et plus précisément, pas de nous protéger le nez. Combien de personnes ont eu ce réflexe de se protéger les oreilles, les yeux ? Et le Seigneur dit qu'il garde ce peuple, c'est-à-dire que celui qui touche à ce peuple-là, touche à la prunelle des yeux de Dieu. Et vous avez remarqué quand quelque chose, quand une petite poussière, quoi que ce soit, touche notre œil, est-ce que nous cherchons à garder cette poussière dans les yeux ? Quel est le réflexe que l'on fait ? Immédiatement, on cherche à l'enlever. Immédiatement. On cherche à repousser. C'est-à-dire que les sentiments de Dieu vis-à-vis de quelqu'un qui veut du mal à son peuple, ça va être un geste violent pour essayer de s'en débarrasser. Dieu ne va pas accepter que quelqu'un touche à son peuple. Alors, est-ce à dire que le peuple juif peut faire tout et n'importe quoi ? La Bible nous dit clairement non, mais comme un père qui corrige ses enfants, il n'a pas envie que ce soit les voisins qui corrigent l'enfant. Or, il se trouve que des nations l'ont fait, des nations vont le faire, et la Bible nous dit que le Seigneur va s'en occuper personnellement, il va le prendre personnellement, et il va lui-même s'en prendre à ces nations. D'où la raison pour laquelle il faut que, comme nous l'avons entendu lors de cette conférence de prière, eh bien, il faut que nous prions pour nos dirigeants politiques afin qu'ils amènent la France à faire une alliance avec Israël ou au moins à ne pas se mettre contre Israël. Est-ce que l'image numéro 5 est passée ou pas ? Alors, on pourrait se dire, mais c'est pas possible, mais qu'a ce pays-là qui a la taille de la Lorraine, quel est ce pays-là qui fait la moitié de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, quel est ce pays qui est 74 fois plus petit que l'Iran, quel est ce pays, qu'est-ce qu'il a ce pays-là, entouré de 100 millions d'Arabes, quel est ce pays, pas forcément musulman, hein, arabe, quel est ce pays qui est 500 fois plus petit que les USA, mais qu'est-ce qu'il a ? Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, l'Éternel dit à Abraham, Abraham était un homme qui vivait en Mésopotamie, dont la famille adorait d'autres dieux, et c'était un gentil. Pas parce qu'il était bon et doux, mais dans le vocabulaire biblique, cela veut dire qu'il n'était pas juif. Et pourquoi ? Bah parce qu'il n'y avait pas le juif à l'époque. Les juifs sont sortis des nations. Abraham était un non-juif. Le peuple juif n'existait pas. Le peuple juif a été retiré des nations. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Ah ah ! Dans le pays. Donc apparemment, dès que Abraham a entendu l'appel de partir, immédiatement, il y a eu la promesse d'un pays qui a été faite. « Je ferai de toi une grande nation. » Où devait être la grande nation ? Ben dans le pays. Elle n'était pas supposée être dispersée. « Et je te bénirai. » « Je rendrai ton nom grand, le nom d'Abraham. » Et aujourd'hui, eh bien, on a entendu parler d'Abraham, on a entendu parler du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et pour nous chrétiens, la Bible dit que c'est le père de tous les croyants. « Tu seras une source de bénédiction, c'est-à-dire que la bénédiction émanera de toi, Abraham, et évidemment émanera de tous ceux qui sont dans tes reins. » Il est dit, il y a une bénédiction particulière, « Je bénirai ceux qui te béniront ». Bénir veut dire croître. Bénir veut dire se multiplier. Bénir veut dire prospérer de plus en plus, en plus, en plus, en plus, en plus, en plus, à tous égards. Ce qui est le contraire de maudire, et là le Seigneur dit « Je maudirai ceux qui te maudiront ». Être maudit, ça veut dire être empêché de progresser. Et finir par se retrouver en bas. « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Vous réaliserez que ici la terre, et vous l'avez entendu, hein, il est question de la terre promise. Pourquoi ? Parce qu'elle a été promise. Vous vous rappelez sans doute de je crois que c'est Ariel Sharon avec un pape vient, et je n'oserais pas dire lequel, vient rendre visite à Ariel Sharon et puis dit, mais vous savez, monsieur le Premier ministre, cette terre-là est la terre de trois religions. Et trois religions y sont, grosso modo. Hein. Et Ariel Sharon a dit oui, mais elle a été promise à une. Elle n'a pas été promise aux chrétiens, cette terre-là. Elle a été promise à Abraham et aux descendants, et on va voir particulièrement auxquels, parce qu'Abraham a eu plusieurs descendants. Dans Genèse chapitre 13, versets 14 à 17, « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, » donc il était à Elion Moré, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. La terre promise. Il y a sur cette planète un territoire qui est promis par Dieu et qui est promis non pas à la race humaine, mais qui a été réservé uniquement à un peuple. Et gare à celui qui cherche à l'en priver. Pour ce faire, Genèse chapitre 15, versets 18 à 21, on va lire plusieurs versets quand même. Hein. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, et là on va voir les dimensions du pays. Alors, peut-être que certains seront choqués, mais franchement, Dieu a fait la terre, Dieu a fait la terre dans un univers. Et s'il plaît à Dieu dans l'univers qui ne cesse de grandir, de réserver sur une planète un bout de terre à un peuple en particulier, qui sommes-nous pour argumenter ? En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne. Ce ne sont pas les hommes qui ont donné. Je donne ce pays à ta postérité. Ah, pas simplement à la personne d'Abraham, parce que là, il aurait risqué de ne plus être en sa possession suite aux héritages, etc. Non, c'est à la postérité. Depuis le fleuve d'Égypte, quel est le nom de ce fleuve ? Voilà, pardon ? Qui a dit la Seine ? Hein ? Le Nil, jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate, le Paillon. Jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Mais vous représentez le territoire, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous voyez que la superficie d'Israël fait 22 000 km², mais ce qui est donné, ce n'est pas 22 000 km². Ça veut dire qu'il reste encore de la terre qui leur appartient et qui, pour l'instant, est occupée par d'autres. Maintenant, on va en parler de ça. On veut parler des territoires occupés. Mais quand même, je ne vais pas me lancer sur le sujet. Donc, qui occupe le terrain de qui, d'après Dieu ? Et puis ensuite, il est dit, voilà, c'est le pays des. Pour l'instant, il dit, ben voilà, il y a les Kenyans, les Kenisiens, les Cadmoniens, les Hessiens, les Parisiens, les Élins. Bref, tout ça qui habite là-bas. Mais le Seigneur dit, ok, ils y habitent, mais en ce qui me concerne, ce sont juste des locataires, parce que la terre, les propriétaires sont le peuple d'Israël. Genèse chapitre 17, versets 7 à 8. Et le Seigneur dit à Abraham, qui après est devenu Abraham, parce que Dieu a décidé de changer son nom pour changer son identité, afin qu'il soit capable d'accepter de recevoir la promesse. Quelquefois, tant qu'on a une identité du monde, peut-être certains pensent plus haut d'eux-mêmes qu'ils ne devraient penser, mais beaucoup plus de gens ont un problème d'infériorité. Et tant qu'on a un complexe d'infériorité, on n'arrive pas à recevoir les promesses que Dieu nous a données. Parce que l'image que l'on a de soi, c'est celle d'un loser qui ne mérite pas toutes les bénédictions que Dieu veut nous donner. Donc, quelquefois, Dieu est obligé de changer notre nom. Et si vous dites, moi j'en ai assez de me voir, ben, demandez qu'on vous appelle autrement. Vous pourrez réécouter le message, c'est biblique. Je donnerai, verset 17, chapitre 17, je vous ai donné, oui, versets 7 à 8, je te donnerai et à tes descendants après toi, donc il n'y a pas d'ambiguïté, ce n'est pas que la personne d'Abraham uniquement, c'est les descendants après. Y a-t-il encore aujourd'hui des descendants d'Abraham, selon la chair ? « le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, et au cas où on aurait des doutes sur la durée du contrat entre Dieu et le peuple juif, la Bible dit « en possession éternelle, et je serai leur Dieu ». C'est-à-dire que les chrétiens ne s'amusent pas avec cette fameuse théologie de la substitution, du remplacement, à dire « oui, mais moi, cette terre, elle m'appartient parce que Abraham est mon père dans la foi ». Non, ici, c'est la promesse qui a été faite à la descendance de la chair. Dans Jérémie chapitre 31, donc le Seigneur dit, ça va être à la race qui va émaner d'Abraham, parce que c'est la race de l'alliance qui est... Les Juifs rentrent dans cette alliance par la circoncision. Et ils disent, c'est à eux que je donne une terre et je vais la leur donner pour l'éternité. Également, on sait qu'Abraham n'a pas eu qu'un fils, il n'a pas eu qu'Isaac. Il a d'abord eu Ishmaël. Et aujourd'hui, Ishmaël, c'est-à-dire que Agar était une arabe. La servante avec qui il a eu son premier fils Ishmaël, c'était une arabe. Donc, on parle de l'antisémitisme. Mais antisémitisme, normalement, aujourd'hui, c'est attribué uniquement aux actes qui sont malfaisants vis-à-vis des Juifs. Mais sémite, c'est, à vrai dire, au sens large du terme, dans les sémites, il y a les arabes et les juifs. Pas les musulmans, ça c'est autre chose. Les arabes et les juifs. Donc, Abraham a eu un fils, et parce qu'il a eu un fils Ishmaël, eh bien, le Coran, qui est une vulgaire copie, mauvaise copie des textes bibliques, dit, descendance d'Abraham, Abraham est notre père à nous aussi, pas par Sarah, mais par Agar. Or, la promesse était faite à Abraham avec Sarah, c'est-à-dire Isaac. Isaac est le fils de la promesse de la terre, c'est-à-dire que les Arabes, par Ishmaël, ne sont pas héritiers de la terre. Ceci dit, le Seigneur ne les a pas oubliés, parce qu'on peut voir que celle sur laquelle ils sont est quand même relativement riche. Le choc pétrolier de 1976 a complètement fait basculer les richesses et leur a apporté beaucoup de richesses. Donc, ils n'ont pas été, et Dieu a des promesses pour eux, s'ils acceptent le Dieu d'Abraham tel qu'il est révélé dans les Écritures et non pas dans le Coran, le Seigneur a des promesses qui sont merveilleuses pour eux. Mais ici, parlons de la descendance d'Abraham à travers Isaac, c'est-à-dire par Sarah. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 31, verset 35. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai la terre, la race d'Israël, à cause de tout ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que le Seigneur dit, malgré ce qu'ils ont fait, malgré ce qu'ils font de mal, je ne les rejetterai jamais, c'est-à-dire, moi de mon côté, je maintiendrai l'alliance que j'ai avec eux. Et je ne trouverai jamais aucune raison de les rejeter. Donc quand on voit une partie de l'Église qui s'en prend aux Juifs parce que soi-disant ils ont tué Jésus le Christ. Non, c'est pas les Juifs qui ont tué le Christ seulement. C'est les Juifs et les Romains, c'est-à-dire le monde juif et le monde non juif. Christ est mort à cause de nos péchés. Et la Bible dit nous étions tous, toute la race humaine a été séparé de Dieu à cause de son péché. Nous avons tous crucifié le Seigneur. Et il faut que l'Église accepte la vérité des textes bibliques, parce que sinon ce qu'elle croit est faux. Et aujourd'hui, au lieu de se réjouir des 70 ans de l'Éternel, d'Israël avec le peuple juif, elle risque de lui en vouloir et de croire tous les articles mensongers, calomniateurs, qui sont écrits à son égard. Alors, en l'an 135 de notre, en l'an 70 de notre ère, l'Empire romain a envahi par la manière forte, s'est imposé, était déjà sur le territoire d'Israël, hein, mais en l'an 70 a détruit le temple. Et là, ça a été le commencement de la fin, je dirais, du foyer national juif en Israël. Et ça, c'est vraiment, la dispersion a commencé en 135 de notre ère. En 135 de notre ère, il y a eu la deuxième dispersion du peuple juif. Il a été expulsé de ses terres. Ceci dit, il y a toujours eu des juifs qui sont restés sur la terre d'Israël. Hein ? Et les Romains, pour punir les juifs qui s'étaient révoltés pendant 3 ans, parce qu'ils en avaient assez de la domination romaine, eh bien pour les punir, les Romains ont transformé le nom de territoire de Judée et Samarie, Israël, en Palestine. Et je pense que vous réalisez que ça n'est pas anodin. Pourquoi ? Parce que les plus grands ennemis ont toujours été les Philistins. Et vous avez dans Palestine Philistins. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle ? Pourquoi est-ce que par exemple les gens qui sont à Gaza et de ça se disent nous sommes des Palestiniens ? Parce qu'ils n'arrivent pas à prononcer la lettre P dans leur langue. Ils ne peuvent dire feu que F à la place du P. Donc ce ne sont pas des Philistins, ce sont des Palestiniens. Ils n'arrivent pas à dire le feu, Philistins. Donc ils disent Palestiniens. Donc si vous voulez savoir si vous avez affaire à un juif ou à un Palestinien, demandez-lui de dire Philistin. Alors, la Bible nous dit que le Seigneur, dans sa préscience et dans son omniscience, savait que le peuple juif serait dispersé à cause de ses propres erreurs. Parce qu'il y avait une condition au fait que le peuple juif demeure sur son territoire, c'est qu'il honore l'Éternel, ce qu'il n'a pas fait. À un moment, il a été dispersé. Et c'est par ce que les Romains ont fait. Mais Rome l'a payé cher parce que l'Empire romain a disparu. Mais également, le Seigneur avait dit, je les ramènerai. Vous savez, quand vous avez imaginé des plumes qui sont dispersées, vous prenez un oreiller, vous l'ouvrez en deux, vous mettez tout en haut d'un gratte-ciel et vous secouez l'oreiller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule plume dans l'oreiller. Allez ramener toutes les plumes, c'est possible ? Bon ben voilà, ça ressemble au miracle qu'il a fallu pour que cette promesse que les Juifs reviennent en Israël soit accomplie. Ésaïe chapitre 11, versets 12, 10 à 12. Le Seigneur dit, en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui. Est-ce que les nations aujourd'hui se tournent vers Israël ? Et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main. La première dispersion a été quand les Babyloniens ont pris le dessus et ont amené en exil le peuple à Babylone. La deuxième dispersion, c'est celle dont je viens vous parler. Et la Bible nous dit, 500 ans plus tôt, par le prophète, que c'est exactement ce qui se passerait, il y aurait une seconde dispersion. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé. C'est-à-dire que la main du Seigneur se pose sur chaque juif qui veut faire son alia aujourd'hui. Le mot alia veut dire la montée. Faire son alia, c'est monter. Pourquoi ? Parce qu'on monte vers Jérusalem. On monte vers Israël. Pourquoi ? Parce que c'est une élévation d'aller dans ce pays. Alors, il y en a qui ne le réalisent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un plus grand contact quand on va dans ce pays. Il y en a qui ne le réalisent pas, qu'ils ont été promus. Mais il est dit, il entendra sa main. À chaque fois que vous entendez un juif qui dit « je pense à faire mon alia », vous pouvez vous dire « ah ah, La main de l'Éternel est sur lui. Dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Elam, à Shinéar, à Hamat et dans les îles de la mer. Vous croyez qu'il y a des Juifs en Guadeloupe qui ont besoin de retourner à la maison ? Seigneur, étends ta main sur les Juifs de Guadeloupe. Seigneur, étends ta main sur les Juifs d'Australie. Seigneur, étends ta main sur les Juifs de Cuba. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera. Ce n'est pas la Shoah, c'est il rassemblera. Les Juifs ont commencé le retour vers la fin du 19e siècle. Il rassemblera les exilés d'Israël. Il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Je ne sais pas comment il fait avec une terre qui est ronde, mais il dit les quatre extrémités. Jérémie chapitre 30, versets 1 à 4. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, les jours viennent, les jours viennent. » Le prophète Jérémie a dit « les jours viennent » et pendant plus de 2000 ans, ils l'ont attendu ce jour et nous y sommes. Je ne sais pas, un peu de reconnaissance envers le Seigneur. Non mais vous réalisez que nous y sommes. Nous sommes dans ces jours. Les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Je vais juste vous lire, écoutez, Ésaïe 38, verset 8. Après bien des jours, tu, en parlant de Gomer, un ennemi d'Israël, sera à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés, d'entre plusieurs peuples, sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Alors, les choses ont commencé à bouger à la fin des années 1800, quand Theodor Herzl et Chaim Weizmann ont fondé le mouvement du sionisme, un mouvement politique dédié à la création d'un État juif. Vous avez sans doute entendu parler de la déclaration de Balfour. Eh bien, c'est le gouvernement britannique qui a envoyé une lettre à Lord Balfour pour lui confirmer que oui, la nation britannique reconnaissait que le foyer national juif se trouvait en Palestine. Et cette déclaration-là a été envoyée à Rothschild, qui, parce que c'était un homme qui était extrêmement riche, a commencé à acheter des terres dès qu'il a pu en Palestine afin de les donner. Donc il y a des titres de propriété également, hein. Il n'y a pas que le récit biblique, il y a des titres de propriété. Et puis ensuite, quand on avance dans l'histoire, les Turcs avaient fondé l'Empire ottoman, lesquels ont été battus par les Anglais. Et les Anglais, eh bien, n'ont pas réussi à trouver une solution parce qu'il y avait des Juifs et il y avait des Arabes en Palestine. Donc, est-ce que je peux avoir la carte, l'image numéro 6, s'il vous plaît. Est-ce que vous la voyez? La Palestine. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, vous voyez, quand les Anglais ont battu les Turcs, c'est la photo de gauche. Tout ça, ça s'appelle la Palestine. C'est-à-dire qu'il y avait des Juifs palestiniens et il y avait des Arabes palestiniens. Oui. Parce que c'est ce qui constituait, c'est ceux qui habitaient là. Hein. Et puis ensuite, comme il y a eu des révoltes entre les Juifs et les Arabes, parce que les uns disaient oui, c'est à nous, les autres disaient non, c'est à nous, et les Britanniques n'ont pas réussi à s'en sortir. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Avec les Français, ils ont décidé d'attribuer une partie du territoire aux Juifs et une autre partie de la Palestine aux Arabes. Et ils ont pris une règle, au lieu de tenir compte des différentes tribus qui étaient là, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a tellement de problèmes entre les chiites, les sunnites et tout le reste, au lieu de tenir compte de cela, non, ils l'ont joué à l'européenne, c'est-à-dire ils ont pris une règle, clac, ils ont tiré un trait, et ils ont dit, un tiers du pays aux Juifs, et nous reconnaissons que c'est le foyer national juif, et les deux tiers aux Arabes. Il faut savoir que la partie du territoire que les Juifs ont hérité était faite de marécages et de déserts. Aujourd'hui, on peut lire le récit de voyageurs qui disent « mais je faisais des kilomètres sur ce territoire-là qui avait été attribué aux Juifs ». Par exemple, Mark Twain en a parlé et dit « mais je ne rencontrais pas une seule personne, même pas un oiseau ». Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait absolument rien du tout. Donc on peut dire en quelque sorte, bah, y a eu deux départs là. Un départ sur le territoire attribué aux Juifs, et puis vous remarquerez que le territoire qui a été attribué aux Arabes, bah, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. Donc nous pouvons dire que les Palestiniens ont leur territoire. Oui ou non? Ça, c'est l'histoire. Hein. Ça, c'est... On n'est même pas dans la doctrine, là. On n'est pas non plus dans ce qu'on aimerait qu'il soit ou qu'il ne soit pas. Ça, c'est ce qui s'est fait. Voilà. Et les nations ont confirmé la déclaration Balfour chez nos voisins à San Remo en 1920. Et ensuite, suite au vote des nations en 1947, l'État d'Israël a été proclamé en tant que tel par Ben Gurion le 14 mai 1948, il y a 70 ans. Et qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Le Seigneur avait dit en Ésaïe, en un seul jour, la nation naîtra. En un seul jour, lorsque la majorité a été votée à l'ONU, en un seul jour, un vote a dit, oui, nous reconnaissons qu'une partie. Donc pourquoi on essaie de leur prendre ce territoire aujourd'hui? Pourquoi essaie-t-on de leur prendre ce territoire? Parce qu'il y a un conflit spirituel, plus qu'un conflit politique. Et quand les hommes politiques ne connaissent pas la parole de Dieu, quand ils ne marchent pas avec Dieu, eh bien, ils se rangent du côté de celui auprès desquels ils vont avoir les plus grands intérêts politiques pour avoir des voix, au lieu de se ranger du côté des textes bibliques qui disent « Celui qui bénira Israël sera béni, celui qui maudira Israël sera maudit ». D'ailleurs, j'ai lu un article qui était assez intéressant qui faisait remarquer que notre pays a connu les 30 glorieuses tant que nos dirigeants politiques, à savoir le général de Gaulle, a dit que la France était une amie et une alliée d'Israël. Quand le général s'est retourné contre Israël, depuis, la France a des difficultés à se relever. Ça ne s'invente pas un truc comme ça. Alors, je vais vous lire une dernière parole. Vous êtes avec moi ou c'est trop... Ça vous intéresse ou... On rentre à la maison, chacun fait une sieste. Hein? Et vous savez, il faut savoir pourquoi le peuple juif qui connaît les textes se réjouit. Et la Bible dit que nous, chrétiens, nous avons une dette de reconnaissance envers eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez féliciter tous les juifs que vous connaissez d'avoir un pays. Et si vous avez un peu de courage, vous lui dites, et c'est pas la France. Mais bon. Ésaïe 41, verset 8 à 11. « Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai prise aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. » Voilà. Voilà ce que doit faire le peuple juif. Et je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, c'est-à-dire, ben, contre moi, dit l'Éternel. Ceux qui s'en prennent à Israël s'en prennent à l'Éternel. Et j'ai lu ceci, quelques jours après la mort de Blaise Pascal, Vous avez entendu parler ? Hein ? Son valet de chambre trouva, cousu dans un de ses vêtements, deux feuilles de papier où était écrite cette phrase célèbre : Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je relis. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. Alors, nous voyons que Dieu, comme il nous est dit dans la parole, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? On se rappelle aussi que l'Éternel a dit, écris la prophétie, garde-la, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et puis, les deux dernières images. Quand le pays a été pas donné aux Juifs, reconnu, parce que ce sont les termes de la déclaration de Balfour, hein, quand le pays a été reconnu comme étant le foyer national juif, c'était un désert, c'était des collines désertiques, c'était des petites villes, des villages, et aujourd'hui, voilà ce que vous avez en Galilée et voilà ce qui pousse dans le désert. L'autre photo, s'il y en a une autre, vous me l'avez mise tout à l'heure, c'est la dernière. Non. Bon, ben là vous voyez la carte, 500 fois plus petit que les États-Unis, plus petit que l'Italie. La carte, on va y arriver, il faut remonter, parce que vous l'aviez mise en premier. C'est une ville. Patience à ceux qui écoutent sur Internet. On essaie de trouver une photo que j'ai. Bon, bref, sinon vous allez sur Internet et vous regardez les images qui parlent d'Israël et vous verrez des villes qui sont absolument florissantes, vous verrez des villes qui sont bien ordonnées, vous verrez des plages qui sont magnifiques. Et puis, il les... Voilà. Ok, ben ça, c'était juste du sable. Il y a encore peu, c'était du sable. Et aujourd'hui, vous avez ne serait-ce que cette ville-là de Tel Aviv, qui les plus grands scientifiques en sortent, les plus grands chercheurs, la plus grande technologie... Et ceux qui n'aiment pas Israël feraient bien de jeter leur smartphone à la poubelle. Parce que c'est plein de découvertes israéliennes. Leurs ordinateurs, la plupart des médicaments, les smart cities que l'on est en train d'inviter, cette technologie que l'on est en train d'inviter en France. Eh bien, dans ces cas-là, et je vous assure que ceux qui rejettent Israël, grosso modo, ils repartent au Moyen-Âge. Et certains... Franchement, ça leur ferait du bien, parce qu'ils apprendraient à bénir Israël. Peut-être que je vous l'ai dit, non, quelque chose qui m'a interpellée, voire choquée, de savoir qu'il y a cette ville de Cape Town en Afrique du Sud qui est en train de souffrir, Cape Town ou Johannesburg, enfin en tout cas je sais que c'est en Afrique du Sud, qui est en train de souffrir d'une sécheresse. D'une sécheresse telle que les restrictions d'eau sont à la limite dangereuses et que si quelque chose ne se passe pas d'ici l'été prochain, eh bien, ce qui finit par être une mode aujourd'hui dans ces villes-là, qui est de sortir dans les rues les cheveux qui ne sont pas lavés depuis des jours. Et ça finit par devenir une mode parce que, à cause des restrictions d'eau, donc les jardins, etc., on n'en parle même pas, les coupures d'eau sont régulières, et ça va être dramatique cet été si quelque chose ne se passe pas. Ayant entendu cela, le gouvernement israélien a proposé de l'aide. Qui sait qu'Israël est un expert pour gérer l'eau, ne serait-ce que pour dessaler toute l'eau qu'ils ont. Et ils sont des experts. Ben, il suffit de regarder ce qu'ils font pousser dans le désert aujourd'hui. Et l'Afrique du Sud a refusé l'aide israélienne à cause de ce conflit palestino-israélien. Parce qu'on va mettre les mots dans l'ordre aussi. Hein. Mais vous imaginez la bêtise. Donc, ils préfèrent que les Africains du Sud vivent dans... Parce qu'après, ça crée des problèmes d'hygiène, ça crée des problèmes... Ça amène la maladie, ça... Et puis, l'Afrique du Sud, je n'ai jamais été, mais il paraît que c'est un pays qui est magnifique. Ben, vous croyez que les touristes, s'ils ne peuvent pas prendre une douche tous les 2 heures, ils vont aller dans ce pays-là? Bien sûr que non. Ceux qui béniront Israël seront bénis, ceux qui le maudiront seront maudits. Et la malédiction n'est pas parce que Dieu dit « Allez, je vais te maudire ». Ils se la tirent eux-mêmes par leur bêtise et leur aveuglement. Mais en tout cas, pour nous les chrétiens, eh bien, moi je vous encourage, réjouissons-nous et n'ayons pas peur de dire que les 70 ans d'Israël sont des prophéties qui ont été réalisées. Et ce Dieu qui a réalisé ces prophéties, alors que c'était complètement impossible, eh bien, est en train de réaliser les prophéties qu'il a parlé dans ma propre vie. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Donc, courage. Si vous êtes en train de croire dans le Seigneur pour une promesse qu'il vous a faite, et vous dites « ça tarde », la Bible dit « écrivez-la de manière à vous ne pas l'oublier, parce que lui ne l'oubliera pas. Dieu a la mémoire longue, et c'était le titre de mon message. » Gloire à Dieu. Vous êtes bénis. Levons-nous. On va remercier le Seigneur. Seigneur, tu es grand,